Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Mais si au bout du troisième morceau, ton producteur il dit salut, c'est.
Mais parce que peut-être qu'en fait, il a surestimé de ses capacités, ou il s'est fait crever sur un truc, il a plus de love le pote.
Oui,
il essaie de faire illusion, et voilà. Ou, non, mais c'est la vérité, même un clip qui coûte 400 euros, le mec, faut lui payer son survêt de Manchester City à je sais pas combien. Non, mais c'est vrai, de vrai. Faut faire un barbuck, ramener les tipeux, faut aller.
Non, bien sûr, mais faut avoir les épaules.
Le truc, il a 1 500, 2 000. Pour que tu rappes, taper nos micros, alors qu'en vérité. Non, mais c'est vrai, alors qu'en vérité, ça génère rien pour l'instant.
Non, mais parce que je pense aussi aujourd'hui, si tu te lances là-dedans, faut être malin aussi. Faut un minimum plug machin, enfin en tout cas moi le truc que tu viens de me dire, si jamais ça coûte 3000 balles, c'est que le mec s'est vraiment organisé comme une merguez, tu vois.
Yo tout le monde, ici c'est Chris d'Iconic pour Bouscapé et t'es branché sur Dilettern. Alors aujourd'hui on va parler d'un sujet qui a pas mal défrayé la chronique ces dernières semaines, comme vous avez sûrement pu le voir, notamment entre Maître Gims, Dawala, etc. On va dire les noms, hein. Ça fait pas mal parler, et c'est vrai que ça nous a inspiré pour un sujet. Et le sujet, c'est tout simplement de savoir pourquoi les artistes se sentent pourquoi les artistes peuvent se sentir lésés par leurs producteurs. Et l'idée là du sujet, ça va être de revenir un petit peu sur la relation entre les deux, les accords business qui se font aussi au début et qui évoluent avec le temps, pourquoi les artistes aussi parfois ne sont pas d'accord avec tout ça. Et le but, c'est d'en discuter avec vous, avoir un petit peu vos avis d'un point de vue extérieur. Peut-être Flo, un peu moins, on va voir. On a hâte d'avoir un petit peu tes retours d'expérience là-dessus. Et avant de commencer cet épisode, comment vous allez ?
Ça va.
Tout est cool ?
En forme.
En forme ? Ouais, ça se voit, toi, t'es en forme.
Flo, il est en forme de ouf.
Ouais, nous, on est déjà... Ouais. Je pense qu'avant de commencer le sujet, il faudrait qu'on redéfinisse les termes pour les gens. C'est vrai qu'on l'a déjà fait dans un épisode précédent, mais qu'est-ce que c'est exactement le rôle d'un producteur ? Flo, je te laisse y aller.
Le producteur, c'est celui qui va financer la musique et qui va du coup payer les clips, le studio, les beatmakers, tout, et qui va rémunérer l'artiste en lui donnant un pourcentage du chiffre d'affaires généré par la musique pour l'exploitation de sa chanson sur la musique.
D'accord,
donc,
très bien.
Le producteur, c'est l'employeur, c'est le patron de l'artiste en vrai.
D'accord, très bien.
Et ouais. Juste pour compléter, là je pense que l'idée du sujet, c'est plutôt parler des producteurs indépendants.
On va parler des producteurs indépendants, okay. Mais on va être à un moment amené à parler, je pense, que des majors. Parce qu'à un moment donné, c'est aussi de là où la friction peut aussi avoir lieu. Ça dépendra. Bien sûr, on va en parler, mais je pense qu'on va beaucoup parler des producteurs indépendants et des artistes, dans le cas de Dawala et de Maître Gims, ça a été le cas. Là, aujourd'hui, on a pu assister dans le rap très souvent des cas de figure où les artistes, au bout d'un certain temps, c'est vrai que ça n'arrive pas forcément au début de carrière, mais ça arrive au bout d'un certain temps, où l'artiste se sent lésé par le producteur. Est-ce que dans un premier temps, on va mettre les pieds dans le plat, est-ce que dans un premier temps, vous avez des retours d'expérience sur pourquoi, en fait, on arrive à ce cas de figure-là, qu'est-ce qui se passe en général, et ensuite, on va pouvoir défricher tout ça.
J'ai l'impression que parfois, ce qu'on entend, c'est que l'artiste a des griefs envers son producteur, soit il s'estime pas forcément rémunéré à sa juste valeur. Peut-être qu'il a peut-être des royalties qu'on aurait dû lui verser. Quand je parle de royalties, je parle de l'argent qu'il a généré, que sa musique a généré, et l'argent qui aurait dû lui revenir selon le pourcentage. Il estime qu'on lui a peut-être pas versé ces royalties-là, ou il estime que les conditions de départ, imaginons que, je sais pas, il était en contrat d'artiste à 7, 8, 9%, peu importe, je sais pas, 10%, et les conditions de départ par rapport à quand il a commencé sa carrière, à où est-ce qu'il en est maintenant, je sais pas, au troisième projet, il estime que ces conditions de départ définies doivent être revues, et peut-être que parfois le producteur ne veut pas. Ou peut-être que l'artiste se dit aussi, je ne sais pas moi, sur telle showcase, le producteur va prendre temps et l'artiste va prendre temps. Au début, ça ne dérange pas, mais peut-être qu'à un moment donné, l'artiste il estime que ça devrait être équilibré aussi. Donc il y a plein de raisons qui peuvent expliquer le pourquoi du comment, mais la plupart des raisons, elles sont toutes liées, j'ai l'impression, aux financiers.
Ouais.
Aux financiers et à l'artiste qui a pris de la notoriété. Finalement, un artiste, quand il n'a pas encore pété, je ne veux pas dire que tu entends très peu de problèmes, mais presque en fait.
Ouais.
Tu vois, parce qu'il n'y a pas finalement d'enjeu. Mais quand ça commence à générer un chiffre d'affaires et qu'il y a des royalties, il y a des pourcentages qui sont distribués, bah là, tout d'un coup, est-ce qu'on peut, ce qui peut humainement s'expliquer, bah, il commence à y avoir un peu de tension. Et comme disait Flo aussi, c'est vrai tout à l'heure, on parle de pourcentage sur le chiffre d'affaires quand on parlera de contrat d'artiste. Tout ça, il expliquera plus que moi, je suppose. Mais en tout cas, c'est toujours lié à la partie financière, après ce que je vois.
Moi, je dirais qu'il y a deux cas de figure principaux. C'est, le premier cas de figure, c'est quand ça ne marche pas. Et donc, du coup, tu en veux à ton producteur en disant que c'est à cause de lui que ça ne marche pas, à cause du travail. Et le deuxième cas de figure, c'est quand ça marche trop. Et du coup, tu trouves que tu ne gagnes pas assez d'argent parce que tu considères que ton producteur ne mérite pas de prendre autant sur toi. Donc, en vrai, en général, je pense que les embrouilles elles viennent du fait de la non-valorisation du travail de chacun.
D'accord.
Soit l'artiste considère que le producteur ne bosse pas assez, soit que lui bosse trop. Et c'est très rare d'avoir des relations où les mecs arrivent à grandir ensemble et qu'un équilibre se crée sur la durée.
Okay.
Parce qu'en général, comme le disait Kersh, au début, le mec, il veut juste quelqu'un pour le produire. Parce que le producteur, c'est lui qui investit. Donc, il veut juste que quelqu'un investisse pour lui. Et une fois que ça... Donc, il ferme un peu les yeux à tout tant que quelqu'un investit sur lui. Et souvent, tu acceptes d'être... Il y avait une interview récente, je crois que c'était Joke. Enfin, pas du tout, pas récente pour le coup. Joke qui disait qu'il avait signé dans le label de... Tequila Tech, je crois. Et les...
Avant 2010.
Ouais. Et les mecs lui disent, pourquoi t'as signé chez lui? Et il dit, en vrai, c'est juste question d'opportunité. T'es un artiste, tu dis, c'est pas des opportunités. Il dit, à ce moment-là, il n'y a que lui qui me propose quelque chose. Et donc, moi, j'y vais. Et souvent, ce qu'on oublie, c'est qu'en fait, l'artiste, au début, souvent même consciemment, il sait que la personne avec qui il va bosser, c'était pas forcément la meilleure personne qu'il lui faut, mais c'est la personne qui est prête à le faire. D'accord. Et donc, c'est facile, après, une fois le temps passé, de dire, bah ouais, mais t'étais pas la personne idéale. Mais à cette époque-là, l'artiste a potentiellement fermé les yeux dans le but d'avoir quelqu'un qui s'occupe de lui, quoi.
D'accord. Donc, ce que tu dis, en réalité, c'est que les artistes, au départ, sont en recherche d'opportunités. Ils chopent l'opportunité, la première qui leur est présentée.
Qui leur parle.
Mais que finalement, lorsque d'autres acteurs rentrent en jeu, parce qu'on parlait tout à l'heure de percer, mais j'ai l'impression que finalement, ça intervient des fois bien avant, notamment lorsque la major, elle rentre en jeu.
Oui. Moi, je voulais juste rajouter quelque chose par rapport aux propos de Flo. Quand tu regardes bien, il y a quand même des exemples où ça se passe relativement bien et les choses ont évolué. Quand tu vois, par exemple, MHD avec Adèle, leur relation, comment elle a évolué de projet en projet. Je pense qu'ils ont revu des choses businessement de façon très intelligente. Mm-hmm. Et aussi Affranchi, Hyperfocal avec Soul King aussi, comment ils ont développé l'artiste, les deux structures et ce sur quoi ils partent. Tu vois, je pense que si les choses se font en bonne intelligence, au même titre que l'artiste grandit en notoriété et que les gens sont intelligents, sont perspicaces, comprennent que parfois il est plus intelligent de peut-être donner un peu plus à l'artiste, mais finalement que tout le monde soit content, plutôt que de se dire c'est comme ça, ça ne bougera pas, et c'est pas autrement. Mais après, pour compléter le propos de Flo, et je pense que peut-être que Céline va en parler aux chroniqueurs aussi, des fois, dans le business, c'est pas comme dans un travail plus classique, entre la relation entre producteur et artiste, il y a de l'humain qui se mélange. Il y a parfois des relations d'humain, d'amitié, donc on confond entre ce que le producteur doit à l'artiste et ce qu'il pourrait faire pour lui. Par exemple, un producteur qui paye un loyer, c'est jamais marqué nulle part que ton producteur il doit te payer ton loyer. Donc il va te payer ton loyer, tu vas dire, ouais, mais il a de l'argent. Ouais, mais par exemple, si c'est ton loyer, je sais pas, j'ai n'importe quoi, fait 600 euros, sur 10 mois, il te le paye, ça fait 6 balles qui ne rentrent pas dans ce que tu lui devras derrière. Donc en fait, c'est limite du flat ce qu'il te donne. Il ne te le donne pas, mais il fait ça parce que tu dois continuer ta musique. Ou par exemple, l'artiste, le producteur, s'il donne de l'argent à l'artiste indépendamment des séances de studio faites, c'est parce qu'il se dit, je préfère que tu fasses ça plutôt que tu ailles vendre des stupes, ou bien parce que tu es un peu cramé, tu ne veux pas te montrer. Donc je te donne de l'argent, mais qui est sorti du contrat et qui finalement, à la finale, l'artiste peut oublier. Ou peut-être aussi, des fois, il y a des artistes qui s'estiment lésés parce qu'en fait, leur producteur, au début, il les a détectés en 2010, je ne sais où, dans un studio. Mais finalement, les gars, ils ont les contrats, mais ils font rien avec. Et l'artiste, il commence à être sollicité, il fait tout de son côté. Le producteur n'est même pas trop présent. Et il se passe quelque chose et le producteur revient un peu comme une fleur. Il a peut-être mis à l'écoeur. Parce qu'il y a ça aussi qui est arrivé pendant un petit moment. Tu sais, les producteurs, on va dire, un jour, ou peut-être même, suis-moi bien, un jour, le gars a mis, je sais pas, 2000 euros sur toi. Après, tu vas peut-être avec un autre producteur, vous ne parlez plus pendant des années, ça pète. Hey, mais c'est moi qui ? C'est moi qui ai fait le truc, c'est moi, nanana. Et ça arrive beaucoup chez des producteurs indécents. C'est moi qui l'ai détecté, j'ai payé ses premières séances de studio à l'époque. Sans moi qui, nanana. Tu vois, il y a beaucoup de ça. Il y a un mélange de plusieurs choses.
Mais en fait, là, justement, tu m'envoies sur plusieurs sujets intéressants. C'est sur la notion de producteur indé. En fait, j'ai l'impression que les producteurs indé, et là, je pense que Céline, aussi, t'as peut-être aussi plus d'infos là-dessus, mais j'ai l'impression que les producteurs indé, finalement, c'est souvent des gens qui sont des gens du quotidien, qui connaissent l'artiste, qui sont proches de lui d'une manière ou d'une autre, et qui, à un moment donné, kiffent le son et décident de mettre un petit peu quelques billes sur un artiste, et sans vraiment connaître le métier, d'où le fait que c'est pas forcément contractualisé ou quoi. Est-ce que c'est ton retour d'expérience que tu as sur les producteurs ou c'est, ou
bah
c'est
alors,
différent?
Déjà, pour rebondir un peu sur ce qu'ils ont dit, du coup, ça montre bien que... pour ceux qui nous écoutent et qui ont envie de se lancer dans la musique, en tout cas, il faut très, très bien choisir son entourage. C'est primordial parce qu'on parle du fait que l'artiste puisse, après, à un moment donné, se sentir lésé et qu'il a envie de quitter le producteur. Mais il y a aussi le cas où le producteur, quand ça va mal, et ben, salut, bye bye, tu vois. En fait, il faut quelqu'un qui puisse être là dans les bons moments et dans les mauvais moments aussi, surtout. Et je pense que ça, c'est hyper important parce qu'en réalité, le producteur aussi, il y a beaucoup de producteurs aussi qui ont abandonné leur artiste parce que finalement, ils n'y ont pas cru assez. Et c'est ça aussi qui fait qu'il faut que tu t'entoures de gens qui croient vraiment en toi. Quoi. C'est compliqué. Peut-être des fois, il faut bien le flairer et c'est le temps qui te dira si tu es avec les bonnes personnes ou non, hein, en réalité. Mais c'est ça le plus important, c'est t'entourer de gens qui croient en ta musique, qui vont essayer de t'emmener le plus loin possible et qui vont être très bienveillants envers toi. Voilà, ouais. Ça, c'est clair. Et c'est ce qui fait qu'ils vont être là, même dans les mauvais moments, même si ça ne marche pas, même si à un moment donné, il y a un moment de déclin, tu vois, et qu'ils vont repenser toute la stratégie avec toi et qu'ils vont t'aider et qu'ils vont faire que ça va perdurer, pardon, dans le temps. Donc, ce que disait aussi Flo, c'est qu'effectivement, ce qui est important, c'est de voir sur la longueur si ça fonctionne ou pas.
Ok, pour les artistes, mais c'est justement un petit peu ce que toi, Kersh, tu disais tout à l'heure par rapport au producteur indé, justement, ouais. Qui va aller même jusqu'à payer le loyer de l'artiste. Est-ce que c'est justement ce cas de figure où le producteur va être investi dans la vie de l'artiste? Est-ce qu'à un moment donné, Oui.
Ouais, excuse-moi. Bah, en fait, ça, c'est un peu au cas par cas, en fait. En réalité, c'est tes conditions que tu donnes dès le départ avec ton producteur, si tu veux. Après, ça évolue, effectivement, mais le secret, c'est la communication, c'est tout, en réalité. Il n'y a pas d'autre secret, il n'y a pas d'autre manière de faire, c'est dans tout, en soi. Si tu communiques avec ton producteur dès le départ et que vous avez convenu de conditions, qu'elles évoluent avec le temps, mais que vous en avez discuté parce que toi, tu évolues en tant qu'artiste, que tu grossis, effectivement, et que tu as d'autres besoins, eh ben, ça se rediscute. Et je pense que ce qui fait que ça va durer, c'est que les deux croient l'un en l'autre, en leur talent l'un ou l'autre, parce qu'en réalité, même les producteurs, en fait, penser à la stratégie, être là au quotidien avec et aller essayer de démarcher d'autres gens pour son artiste et pouvoir le développer, c'est aussi une forme de talent pour moi. Et ça se complète, en fait. Donc, c'est les deux pour moi. Il n'y a pas un où il faut pointer du doigt peut-être l'un ou l'autre. Après, tout dépend s'il y a eu des couilleries ou quoi, tu vois, enfin, il y a vraiment des actions.
On va un petit peu en parler aussi.
Mais dans les cas, entre guillemets, généraux qu'on a, des retours qu'on a, c'est souvent, il n'y a pas forcément un qui a tort, l'autre. C'est les deux, en fait. C'est à un moment donné, il y en a un qui a eu de nouveaux besoins, qu'on n'a pas forcément parlé parce qu'il pensait que c'était logique que son producteur puisse comprendre que maintenant il a grossi et que maintenant il a besoin peut-être de plus d'argent ou peut-être qu'il mérite plus, selon lui, plus de thunes et que son producteur devrait le comprendre parce que nanana. Mais en fait, tout ça, c'est de la communication. Mais dans le meilleur des cas, effectivement, c'est d'être producteur de soi-même depuis le départ, pour moi.
OK.
Voilà, si tu peux en tout cas, c'est d'être directement en coproducteur, c'est d'être associé avec ce producteur qui devait te produire. Et si tu peux être associé à lui dès le départ.
Ok, je veux rebondir là-dessus parce que c'est intéressant, mais je veux avoir l'avis de chroniqueur là-dessus.
Non, mais moi je pense que c'est comme dans tout rapport. Ouais. C'est en fait, c'est de l'humain. Ça veut dire qu'il y a ce que tu as contractualisé avec ton artiste ou avec ton producteur selon là où tu es. Et après, tu vois, quand on parlait tout à l'heure de payer le loyer, de machin, de trucs, ça, après, là, c'est la relation humaine qui fait que, bah, à tout moment, soit il peut y avoir de l'ingratitude, soit il peut y avoir de l'abus, soit il peut y avoir... Mais est-ce que ça, on en avait parlé, est-ce qu'on n'en avait pas parlé, est-ce que c'est cadeau, est-ce que c'est du flat, comme tu dis, ou est-ce qu'à un moment donné, ça, moi, je vais m'en rappeler, et puis je vais te dire, oui, mais attention, c'est comme ça. En fait, c'est partout où il y a de l'humain, il faut qu'il y ait de la communication, et parce qu'il peut y avoir, des ambiguïtés, il peut y avoir de la traîtrise, Le problème, c'est que au départ, normalement, effectivement, un artiste, il va là où l'herbe lui semble verte. Donc, s'il trouve un bug qui est prêt à investir, X ou Y, vas-y, on y va. Mais si les termes ne sont pas dits, s'il n'y a pas d'échange, je pense que s'il y a un changement de statut qui intervient, Ben, c'est normal qu'à un moment donné, si on n'avait pas acté dès le départ, où est-ce qu'on allait, dans quelles conditions, est-ce que s'il se passe ça pour nous, voilà ce qu'on va faire. Si c'est juste, vas-y frérot, t'inquiète, j'investis, et puis on voit bien où ça nous mène, ben, si par bonheur ça nous mène quelque part, que ça commence à être sympa, ça commence à sentir bon, et que t'as pas été plus clair que ça sur la continuité, sur la démarche à moyen terme, c'est logique aussi que ton artiste, à un moment donné, te dise, frérot, le statut il a changé, aujourd'hui... Je suis d'accord, t'as investi, on commence à générer un peu de bif, est-ce qu'on peut revoir les termes du truc, tu vois. T'as beaucoup aussi de producteurs qui se montrent inflexibles sur ça parce qu'ils se disent, ouais mais moi en fait je récolte la prise de risque que j'ai pris au début. Il n'y a pas de raison que ça change, tu vois. Donc c'est comme dans toutes les boîtes, même quand il n'y a même pas de question de bif, je pense que c'est les gens, est-ce qu'il y en a qui sont souples? Est-ce qu'il y en a qui comprennent le point de vue de l'autre? Est-ce qu'il y a suffisamment d'empathie pour que l'artiste comprenne le producteur comprend l'artiste? Pour moi, à chaque fois que ça pète, alors on ne parle pas à chaque fois au moment où tout se passe bien. La raison, il y a aussi plein de gens qui... Mais à chaque fois qu'il se passe quelque chose de pas bon, on sait très bien que c'est une question d'oseille.
Il y a aussi... en fait, il y a un truc intéressant, vous avez parlé plusieurs fois dans une boîte normale ou quoi que ce soit. En fait, le producteur, c'est l'équivalent de l'employeur. Mmh. Et l'artiste, l'employé.
Mais c'est ça.
Sauf que dans une boîte normale, ça se passe mal avec ton employé, vous n'êtes pas d'accord sur des conditions financières, au pire des cas, vous vous séparez. Rupture conventionnelle, chacun part, tu vois. Sauf que la difficulté avec un producteur et un artiste, c'est que pour le coup, il y a une espèce d'interdépendance. Tu dois, ta musique appartient à ton producteur, mais à l'inverse, ton producteur, pour gagner son argent, a besoin de ta musique. Donc ça crée cette relation un peu compliquée. Et l'autre truc qui est grave important, c'est que la plupart des producteurs sont amateurs. Et ça, faut pas l'oublier. C'est qu'en gros, l'artiste, la plupart du temps, quand il va vers un premier producteur, qui est en général un producteur de son quartier ou un pote à lui, c'est un mec qui a juste de l'argent au moment et qui se dit « Ok, bah, je vais te produire. » Mais sans savoir ce que ça veut dire, sans savoir ce que ça implique, sans savoir quoi que ce soit. Et donc du coup, l'artiste, souvent, il profite du fait que la personne soit prête à investir. Et le manque de professionnalisme ne dérange pas trop au début parce que c'est ça ou rien. Et qu'au moment où ça commence à grossir, le manque de professionnalisme devient criant en disant « Bah écoute, ouais, t'as investi, mais finalement, t'as pas vraiment fait le taf de producteur pour autant. » Et il y a ce truc-là, c'est que le producteur, il doit réussir à se professionnaliser aussi vite que la carrière de l'artiste augmente, de manière à pouvoir être légitime à le garder.
C'est vrai, parce qu'après, ça part sur l'ingratitude, tu vois, par rapport à l'artiste. Du coup, il y a ce rapport qui change dessus.
C'est une de mes questions. Mais je pense qu'il y a un élément que parfois, on oublie aussi, c'est la mauvaise foi. C'est-à-dire qu'en fait, et comme tu disais un peu aussi, le côté loyauté, finalement, moi, je pense qu'à partir du moment où l'artiste a changé de statut, il ne vit plus les choses de la même façon. Et donc, c'est compliqué de ne pas être parfois, je pense, d'une certaine manière, de mauvaise foi. Et comme le producteur aussi, il ne vit plus les choses de la même façon. C'est-à-dire qu'on se met d'accord là tout de suite à 5 sur quelque chose en 2023, le, je ne sais pas quel avril.
Mais moi, je suis moins d'accord avec ça. Parce qu'en fait, le problème qu'il y a, c'est que là, on parle beaucoup des producteurs indépendants. Mais je pense qu'il y a un élément qu'on oublie, c'est que la proximité crée le mépris. C'est-à-dire qu'il y a plein d'artistes qui sont signés en major.
Et ils disent rien.
Ils disent rien.
Ils disent rien, mais ils peuvent pas parce que la major, c'est une structure.
C'est une structure, et surtout qu'ils signent. Déjà, ils peuvent rien parce que c'est une structure, donc la major a dit tu fais comme ça, tu fais comme ça. Ouais. Et il y a aussi ce truc où quand tu bosses avec une major, tu te dis c'est carré, de base. Et le problème aussi des producteurs indépendants, c'est qu'ils n'ont pas forcément ces capacités d'avoir ces structures-là juridiques, de faire les comptes en heure, de faire les cachets, etc. Ouais. Ce qui fait que ça laisse l'impression que le mec a fait des erreurs.
Non, ou bien ça laisse la possibilité de s'appuyer sur des éventuelles erreurs, potentielles erreurs, qu'en fait tu pourrais excuser parce que toi aussi t'apprends, pour pouvoir t'extirper de la situation, de dire ah finalement en fait je suis pas trop bien ici en vrai, mais toi c'est bizarre. Donc en fait j'ai envie de te dire, c'est comme les cachets de studio. En fait, j'ai envie de te dire, bien sûr qu'un artiste à un moment donné, quand t'as un producteur qui est amateur, qui commence, bien sûr que tu pourras toujours trouver un petit détail où le producteur n'a pas fait le job, c'est normal. Mais de l'autre côté aussi, il y a l'artiste qui, parfois, doit des comptes aussi à son producteur qui n'a pas fait le job sur certaines choses. Parce que chacun, même dans le contrat, c'est écrit aussi, l'un doit des choses à l'autre. Tu me dis, c'est comme tu dis, ils sont interdépendants. Et en fait, à un moment donné, je pense, c'est pour ça que...
Mais c'est plus facile de t'en prendre à ton producteur indépendant que de t'en prendre à une major, ou au pire, tu... En fait, le truc du producteur indépendant, c'est que tu peux aller... Déjà, il y a notamment à cause de cette interdépendance. C'est que demain, tu en envoies avec ton producteur indépendant. Tu dis, je rappe plus si on ne trouve pas une solution. Le producteur, tu représentes, s'il n'a qu'un seul artiste, tu représentes 100% de son business. Si tu en as deux, 50%. Personne ne peut couper 50% de son business comme ça, tu vois. Que tu vas avoir une major, tu lui dis, je suis un artiste avec toi. Je ne veux plus faire de musique. D'accord ? C'est pas grave, j'en ai 15 autres. Et si on joue à celui qui va tomber en premier, c'est toi. Parce que l'artiste, il est 100% dépendant de son producteur. Donc s'il veut dire à son producteur, moi je rappe plus parce que j'ai pas envie de me faire ken, son producteur, il est obligé de trouver un accord avec lui, en gros.
Ou pas.
Ou pas, il peut refuser. Mais la maison de disque, elle te dit au pire, bah, vas-y, c'est pas grave, bouse, on verra plus tard.
J'ai l'impression qu'on est plus du côté des producteurs ici. Là.
Mais non, attends, juste, si je rebondis sur le fait que vous dites que la plupart des producteurs indépendants, ils sont amateurs et ils n'ont pas beaucoup de connaissances parce que voilà, ils apprennent sur le tas, tout ça. Je trouve que ça, c'était peut-être à un moment donné, mais beaucoup moins maintenant. Parce que maintenant, même les artistes, ils sont hyper curieux, ils sont hyper investis et ils vont chercher justement des réponses juridiques. Ils vont aller chercher, ils vont s'intéresser sur l'industrie. Avant, ils ne s'intéressaient pas à l'industrie. Les artistes et même peut-être même les entourages, les producteurs même. Et aujourd'hui, je trouve que ça se fait, enfin, ça se voit de moins en moins.
Mais ça dépend des échelles aussi. C'est-à-dire que quand tu as un tout petit artiste qui commence, en général, il y a quand même ce truc que tu disais tout à l'heure.
Même pour les petits artistes qui commencent, hein, je te jure. Hein. Il y en a beaucoup qui s'intéressent à l'industrie de la musique au jour d'aujourd'hui.
En vrai, après, je comprends, c'est mieux qu'avant, tu as raison, en termes de professionnalisation, en termes de connaissances, d'informations sur l'industrie de la musique, tu as raison, mais on n'y est toujours pas. Et en fait, à un moment donné, ils comprennent les grandes lignes parce qu'ils se renseignent sur des comptes Instagram.
C'est déjà bien, du coup, ils se sécurisent de plus en plus. C'est plus une sécurité pour eux et c'est bien. Tu vois, que les artistes eux-mêmes s'intéressent à leur propre...
Mais c'est mieux que ne serait-ce qu'il y a 3 ans, 6 ans ou 10 ans. Ça, c'est bien.
Je veux dire, c'est qu'au tout début, genre les quelques premiers mois de carrière, les 3-4 premiers morceaux, en général, il y a quand même un truc de « on fera les contrats après, on avance comme ça ». Et si jamais ça pète dans ces 3-4 premiers morceaux, c'est là où c'est la merde.
C'est pour ça que je disais qu'il y en a plein aussi, qu'au début, ils vendent du rêve à l'artiste. Ils disent « Ok, t'inquiète, je crois en toi, je vais te produire. » Au final, au bout de 4-5 titres, et en fait, ils disent « Bah salut, je m'en vais. »
Le
but, c'est d'aller là, même quand c'est pas bien. Tu vois. C'est là où t'as un vrai bon producteur.
Après, est-ce que ta poche, elle est assez profonde? C'est ça la question.
Non, mais je veux dire, ça dépend. Ça fait 10 ans que ça marche pas, je veux bien. Enfin, allez, 4 ans, ça marche pas. Mais si au bout du 3e morceau, ton producteur est salut, c'est...
Mais parce que peut-être qu'en fait, il a surestimé de ses capacités, où il s'est fait crever sur un truc, il a plus de love, le pote.
Oui,
il essaie de faire illusion, et voilà. Non, mais c'est la vérité, en vérité. Même un clip qui coûte 400 euros, le mec, faut lui payer son survêt de Manchester City à je sais pas combien. Non, mais c'est vrai, de vrai. Faut faire un barbuck, ramener les tipeux, faut aller
appeler Art Street. Non, mais faut avoir les épaules.
Le truc, il a 1500-2000. Pour que tu rappes ta peine au micro, alors qu'en vérité... Non, mais c'est vrai, alors qu'en vérité, ça génère rien pour l'instant. Comment tu fais? C'est dur. Mais après, le problème, c'est que les artistes, comme t'as dit, les producteurs communiquaient. Dites à vos artistes, là, je suis en paix soufflé, écoute, on va s'arrêter. Non, mais c'est vrai, parce qu'à un moment donné,
non, mais parce que je pense aussi aujourd'hui, si tu te lances là-dedans, faut être malin aussi. Faut être un minimum plug, machin. Enfin, en tout cas, moi, le truc que tu viens de me dire, si jamais ça coûte 3000 balles, c'est que le mec s'est vraiment organisé comme une merguez. Tu vois ce que je veux dire?
Mais chroniqueur, parce que toi, t'es bien plugué. Mais un gars qui, je sais pas, il est en Ardèche, ou je sais pas, ou il est à Lille, ou peu importe, ou même en région parisienne, peu importe. Il connaît personne. Son gars il rappe, son cousin, son frère, son neveu, peu importe, ou t'es une chanteuse, après c'est encore autre chose selon le type de musique, tu veux investir dedans, t'y crois, tu travailles, à un moment donné. En fait, comme il dit Flo, tu sais pas ce que ça va réellement coûter tant que t'es pas vraiment dedans.
Je vais juste rebondir sur un truc et je te laisse parler, Flo. Moi, il y a un truc qui ressort beaucoup et c'est ça dont j'ai l'impression ici, c'est que là, j'ai l'impression que le producteur, en réalité, il se comporte pas vraiment comme un gérant au début, mais plutôt comme un investisseur. C'est-à-dire qu'il va mettre des billes. Et il va regarder comment ça se passe. Si ça évolue, si ça va dans le bon sens, tant mieux. Si ça ne fonctionne pas, il laisse tomber le projet. Mais je n'ai pas l'impression, justement, qu'il y ait cette notion de, vraiment de job, c'est-à-dire au quotidien, qu'est-ce qu'il fait?
Ça dépend desquels. Après, je pense qu'il y a un élément qu'il faut prendre en compte. C'est que le développement, ça coûte cher. Ça coûte ultra cher. Ouais. Quand Kersh dit qu'il faut que tu sois prêt à perdre 30 ou 40 000 euros, il a raison, et ça, c'est pour un indé. Donc, ce qui se passe, c'est que les majors font de moins en moins de développement parce que ça coûte trop cher. Et donc, du coup, c'est laisser... Il y a très peu de labels indépendants en France. De vrais labels indépendants qui produisent plusieurs artistes, pas des labels mono-artistes. Vraiment des labels qui produisent plusieurs artistes. Et connectivité développement, il y en a très très peu. Et donc du coup, ça fait que ça laisse une place pour les amateurs. Et les amateurs, c'est des mecs qui disent « j'essaye, j'investis, on va voir ce que ça donne ». Et le problème de faire confiance à des amateurs, c'est que forcément, c'est moins carré qu'avec un professionnel. Donc c'est ça qui crée cette difficulté-là, c'est que quand tu as un truc d'amateur, et après on parlait de la bonne communication, mais la plupart du temps, les gens ne savent même pas sur quoi communiquer. Mais c'est ça la difficulté, c'est qu'ils ne savent pas c'est quoi leur vrai travail de producteur, c'est quoi leur rôle précisément. Déjà, la plupart des producteurs, ils arrivent et disent « je suis manager ». La plupart des gens que tu rencontres disent « je suis manager », tu n'es pas manager, tu es producteur. Manager, tu défends l'artiste pour un pourcentage de l'artiste, de ce que lui génère. Il va toucher 12%, tu prends 15% de
12%. Et tu peux même pas être producteur et manager en même
temps. Et tu peux pas être producteur et manager. Si tu investis l'argent, tu es producteur. Donc déjà, cette première question-là, en général, les gens, la première fois que je les rencontre, ils ne savent pas y répondre. Donc il y a un truc d'amateurisme pur et dur. mais qui est aussi dû au fait que bah, les gens sont les seuls à y croire, à leurs artistes, tu vois, les seuls à y aller. Et ça crée une problématique parce que trouver des solutions, tout à l'heure on parlait, parce que là en vrai on se concentre beaucoup sur les embrouilles du début. Mais la vraie embrouille de ceux dont on parle, c'est plutôt ceux où quand ça commence à marcher, ça n'arrive pas à trouver des solutions. Parce que souvent, quand ça commence à marcher, pour faire une bonne négociation, il faut que l'un comme l'autre, on comprenne les intérêts de chacun. Et souvent, c'est ça qui manque. C'est-à-dire qu'en gros, l'artiste, il veut plus, mais il ne sait pas ce qu'il veut en plus. Et le producteur, il ne veut pas lâcher parce qu'il ne sait même pas quoi lui lâcher.
Il a peur de lâcher un 1%, 2%.
Il a peur de lâcher et il ne sait même pas ce que ça vaut. Moi, typiquement, ça m'arrive d'avoir des discussions avec des producteurs où il y a des enjeux avec des artistes. Tu vois, j'ai un exemple récent d'un producteur qui, pour le coup, a énormément de maturité. Il arrive à signer un artiste que tout le monde était prêt à signer en distrib. Tu vois, donc distrib, en gros, le mec est
producteur. Il signe quoi, du coup ?
Lui, il a signé un artiste.
Ok.
Donc, il va le voir. Le mec, tout le monde est en train d'essayer de signer l'artiste en distrib avec des montants qui sont conséquents, plusieurs dizaines de milliers d'euros, voire presque 100 000 euros, tu vois. Et le mec, on lui promet, vas-y, tu vas avoir plusieurs dizaines de milliers d'euros pour développer, tu vas être producteur à 70%, tu vois. Donc, le gars, il se dit, waouh, je vais gagner plein d'argent. Et d'un seul coup, le producteur dont je parle, il arrive et dit, écoute, moi, je suis prêt à signer. Donc, certes, on te dit, tu vas avoir quelques dizaines de milliers d'euros pour développer, mais tu n'as pas l'équipe, tu n'as pas la structure. Moi, j'arrive, j'ai la structure, j'ai l'équipe, et je vais mettre de l'argent au-delà de 70 000 euros sur toi. D'accord ? Je vais y aller pour de bon. Par contre, je suis un artiste. Tu vas toucher un pourcentage du chiffre d'affaires. D'accord ? À l'instant T, l'artiste a l'intelligence de se dire, OK, je vais faire ça. Parce que c'est bien si on distribue, c'est bien d'avoir un gros bout, mais si ça s'écrase au premier morceau, au premier album, il ne reste plus rien, tu vois. Et donc, l'artiste, il est un artiste, et puis à un moment, ça commence à marcher. Donc, forcément, l'artiste, une fois que ça commence à marcher, il se dit, ah, ça a marché dès le premier projet, est-ce que potentiellement, j'aurais pas pu faire par moi-même ? Mais il a l'intelligence de dire que c'est grâce à mon producteur quand même. Et arrive le moment où l'artiste est amené à signer en édition. Et là, intelligence du producteur, je l'ai en artiste, donc j'ai une grosse part de revenus sur la partie master, je vais le laisser signer tout seul ses éditions avec sa propre boîte. D'accord ? Comme ça, le gars gagne de l'argent de son côté. Mais quand tu te mets à la place du producteur, la priorité dans le rap, c'est d'avoir la partie master. Donc, si tu as l'intelligence de dire « je suis prêt à perdre les éditions parce que ça consolide ma partie master », bah en vrai, tu arrives à créer une solution pérenne parce que tu sais ce que tu as lâché.
Mais parce qu'il sentait aussi qu'il pouvait y avoir une frustration.
Exactement.
Et voilà, donc c'est de l'intelligence.
Ça nécessite déjà de le comprendre et de l'expliquer.
Et aussi, excuse-moi de t'interrompre, aussi il faut que l'artiste soit assez intelligent pour se dire « j'ai capté le move, je vois où tu veux
parce
en venir,
faut le dire.
Je suis d'accord avec ton plan de jeu ». Non mais en fait, tu peux le dire, mais lui… Non, il me barbe.
Oui.
Il me barbe. Ils sont parano sur des choses.
Et ça vient dans le mix communication-compétence.
Intelligence des deux.
Parce que quand tu expliques au mec, parce que l'artiste, il ne connaît pas, il vient d'arriver, il est tout jeune, tu vois. Donc c'est au producteur de lui dire, écoute, là, je t'ai signé en artiste. Parce que j'ai fait le taf, j'ai fait les investissements. Par contre, sur la partie édition, quand je te laisse signer tout seul, c'est un effort de ma part. Tu n'étais pas obligé de signer avec moi, mais en général, les mecs, ils prennent les deux. Et je te laisse comme ça, tu seras moins frustré de la partie artiste.
Mais est-ce que ces gens-là sont entourés ? Parce que tu me disais tout à l'heure, l'artiste est jeune, le producteur n'est pas forcément complètement formé. Moi, je considère qu'à partir du moment où l'artiste commence un petit peu à décoller, le producteur, comme l'artiste, à un moment donné, va se staffer et va essayer de comprendre un minimum ce qu'il gagne. Donc j'ai l'impression, quand tu m'expliques tout ça, les deux n'ont pas l'air d'être staffés et ils ont plutôt d'être, comme tu disais, en train de se regarder. Non, il est en train de me couiller, là.
Et c'est là où des structures, petite promo, comme 135, comme plus 1...
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to Quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Interviennent, c'est qu'ils peuvent aussi s'occuper de tout ce qui est contractualisation de tes relations entre producteur et artiste et plein d'autres choses aussi. Mais il y a aussi des fois, je ne sais pas si ça peut t'arriver aussi, Flo, peut-être, c'est se dire, ouais, mais je vais voir un tel, il nous conseille tous les deux, mais finalement, qui va le mieux conseiller, tu vois ? Parce que là où Céline a la raison, il faut savoir s'entourer, il faut savoir aller voir des gens aussi. Mais quand tu ne connais pas,
qui t'écoute finalement, tu vas voir qui, pourquoi. Chroniqueur, il va me dire, va voir un tel. Mais pourquoi il dit qu'il va voir un tel, lui? Peut-être que c'était le gars à l'autre, et tu vois, c'est un petit milieu. Donc, il est arrivé, il faut dire la vérité, que certaines personnes du juridique, indépendants ou pas, qui évoluent dans certaines structures, peut-être que quand l'artiste va les conseiller, c'est la maison de disques majeure qui a envoyé l'artiste aller voir un tel, mais c'est l'artiste, enfin l'avocat en question par exemple, bosse aussi, enfin met en avant les intérêts de la major quand il parle à l'artiste. Donc aussi, et c'est pour ça qu'il y a une parano qui s'installe. Je sais qu'il y a des artistes qui font relire deux fois leur contrat par exemple par des avocats différents.
Mais il faut.
C'est la base.
C'est quelque chose que tu conseillerais, toi, automatiquement, à tous les artistes.
Encore une fois, il faut avoir l'argent pour faire de comptes.
La relecture, c'est important.
Il faut avoir l'intelligence, l'argent, les bons avocats. C'est parfois un peu, ça peut être redondant ce qu'on dit, que s'il y a beaucoup à l'argent, la confiance, etc. Mais des fois, de petites choses qui paraissent anodines, bah, des fois, après, ça te crée des gros trous. Tu vois,
et un artiste qui prend 10 000 euros d'avance, payé en deux fois, d'accord, donc 5 000 la signature, 5 000 la rendue du master. Tu vas faire payer 2 000 euros l'avocat pour la lecture de contrat d'artiste. En général, ils disent c'est une économie que je peux faire. Je ne vais pas aller voir l'avocat. Et c'est ça qui pose problème. Et surtout, il faut trouver, comme il disait, des gens objectifs et qui ont aussi une manière d'expliquer. Et aussi, ce qui peut arriver des fois, c'est que la personne qui te conseille, elle ne voit que ton intérêt à toi. Lâche pas, tu vois. Et c'est rare d'avoir. Enfin, il y en a, il y a des très bonnes personnes pour ça. Nous, on en fait partie, on a d'autres qui le font aussi. D'avoir une vision un peu plus ensemble en disant écoute, sois prêt à lâcher là pour gagner ici. Parce qu'au-delà de la partie purement contractuelle, il faut avoir une vision purement business, de se dire, à un moment, c'est un business, c'est on doit tous gagner de l'argent, et des fois, tu as l'impression de sacrifier, mais tu ne sacrifies pas tant que ça. Et donc, c'est ce truc de dire, faut réussir dans les relations à être prêt à sacrifier. Et je pense, et c'est aussi un peu la question, enfin, tu vois, on parlait tout à l'heure de Dawala Gims, dans l'interview notamment qu'il a fait chez le Sherman, il en parle un moment, de dire, et je trouve que c'est assez intéressant comment il le raconte, puisqu'il prend l'exemple concret, il dit, ouais, les mecs, on me critique pour ce que je leur ai donné. Mais j'ai pas inventé les contrats dans la musique. 10, 11, 12%, c'est les contrats de l'époque. Et c'est encore les contrats d'aujourd'hui en vrai. Tu vois, donc c'est plutôt maintenant, c'est 11, 12, 13.
On parle d'artiste. Hein.
En part artiste. C'est-à-dire, en gros, lui, ce qu'il a donné aux mecs, c'est ce que d'habituellement les gens donnent. Après, lui, son discours, c'est de dire ouais, ils ont demandé à renégocier trop tôt, ils m'ont pas laissé manger. Tu vois et souvent, c'est un peu ça la difficulté. C'est est-ce que lui, il a été capable de leur expliquer? Tu vois, genre, j'ai gagné ça, et aussi de montrer ses contrats. Parce que souvent, et ce que déclenche aussi un moment, c'est que des fois, les producteurs, ils s'associent avec des maisons de disques et ils s'associent mal, ils gagnent peu d'argent et ils n'osent même pas le dire à leur artiste, tu vois. Donc là où l'artiste pense que le producteur prend plein d'oseille, il est dans un truc où il cache un peu et il dit non, on renégociera plus tard. Mais ouvre tes comptes, tu vois, ouvre tes comptes
transparent.
Et dis-lui, regarde, moi j'ai pris typiquement les contrats de licence. Le contrat de licence, en gros, tu donnes 12% à l'artiste, il y a 25% à l'époque, ça devait être même à peine 25%, 25% pour le producteur. Donc en gros, le producteur, il a 13% pour lui, pour payer son équipe, le studio, les compositeurs, la cover. Donc en fait, le mec, il n'a pas vraiment de thunes. Donc quand le gars, dès que ça pète, il vient renégocier, c'est aussi normal que le producteur, il dise « laisse-moi le temps », tu vois.
Il est pris en tenaille, en fait.
Il est pris un peu d'en tenaille là-dedans. Donc en fait, le mec, il a un contrat de merde, le producteur. Donc du coup, quand l'artiste vient renégocier sa part, il vient bouffer la part de merde du producteur. Donc le gars, il n'a déjà pas grand-chose, et le gars, il vient renégocier. Sauf que tu n'arrives pas à dire à ton artiste « moi, j'ai un contrat de merde ». Parce que tu te dis, si j'envoie ce signal-là, signal d'incompétence, l'artiste va m'en vouloir, tu vois. Et du coup, ce problème, c'est manque de professionnalisme, manque de communication, ça fait que tout le monde s'énerve un peu. Alors que si tu arrives à parler à ton artiste en disant, écoute, on a fait le premier album, j'ai signé 3 albums avec toi, tu vas pas renégocier dès le premier. On a le temps, le deuxième, on voit ce que ça donne. Et si jamais ça se passe bien, je t'augmente le troisième et je te prends un quatrième. En fait, c'est ça une discussion normale. Que tu fais avec une maison disque, c'est cette discussion-là. La maison disque, elle te fait ce genre de discussion. Tu vas jamais voir une maison disque en disant, je veux renégocier sans donner quelque chose en échange. Mais parce qu'ils sont cadré dans la manière de dire les choses. Qu'un producteur, il y a ce truc de, tu vois, d'ingratitude dont on parlait. Dès que l'artiste pour négocier, il dit « ouais, c'est un ingrat ». Mais non, il veut juste gagner plus. Toi, tu veux gagner plus, bah trouve une manière que lui gagne plus et toi, tu t'y retrouves sur la durée, tu vois. Et c'est ça qui manque, cette maîtrise des paramètres
pour des pouvoir timing, faire une des bonne, temps, une bonne négociation derrière. Tu vois. Et c'est aussi, c'est que des fois, j'ai l'impression que quand l'artiste sent que son producteur est moins présent physiquement à ses côtés, quand il fait une interview, Bouscapé, Rapélif, ou qu'on va faire une scène, je ne sais où, nanana, ah ça y est, ma chéra, elle est moins là, hein, tranquille, mais vas-y, tranquille, c'est pas grave, tranquille. Tu vois, et ça commence à créer de l'animosité, truc.
C'est ça avec le truc de l'amateurisme, c'est qu'en gros, les gens, ils valorisent pas forcément le travail de chacun, ils valorisent la présence. Donc le mec est tout le temps là, tu te dis, c'est lui qui m'aide le plus.
Le pote.
Le pote.
Le pote, c'est le démon.
Tu vois,
le
genre, il y a,
boss.
Y a un mec qui est tout le temps là et tu te dis, il m'apporte le plus. Alors que ça se peut, c'est juste, il y a ton producteur, il n'est pas là, juste, il met l'argent et il débloque des trucs à distance, ça, c'est lui qui t'apporte le plus. C'est que vraiment, La difficulté du rap, c'est, je pense que ça manque de pédagogie. Et c'est à ça que servent les formats comme Dileterme. C'est à ça que servent de plus en plus de formats que tu peux trouver sur Instagram. Et ce que disait Céline tout à l'heure, c'est ultra positif. Mais tu as des exemples de. Typiquement, un des très beaux exemples de producteurs où je trouve que tu vois qu'il y a une transparence et une intelligence entre les deux, c'est Antoine Guéna et PLK.
Je vois ça, ouais.
Quand tu regardes ça, en fait, pour moi, c'est comment devrait se passer une relation entre un producteur et un artiste, c'est ce qu'eux, ils font. C'est-à-dire que je pense qu'il a réussi à évoluer le contrat de son artiste au fur et à mesure de l'avancée. Et surtout, je pense qu'aujourd'hui, ils ont une relation qui fait que...
Est-ce que tu peux expliquer la relation entre les deux, justement ?
PLK, il a été produit par Antoine Guéna, qui a un label indépendant, Panenka Music. Alors, je ne sais pas si à la base, il était en artiste, mais en tout cas, maintenant, il est en licence. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, PLK est producteur de sa musique et confie sa licence à Panenka, qui s'occupe de la mise en lumière et la mise en avant. Et j'ai l'impression qu'ils ont réussi à trouver quelque chose d'assez stable où chacun comprend les apports de l'autre. Et c'est des mecs qui sont passés de... en gros, si on regarde leur première semaine à chaque fois, tu vois que ça explose. Pourquoi ça explose ? Parce qu'ils ont réussi à créer une relation de confiance, mais aussi du bon travail. Et je pense qu'entre eux, enfin d'extérieur, t'as pas l'impression qu'à un moment, ça va exploser entre eux. Parce que je pense qu'à un moment ou un autre, chacun valorise l'apport de chacun. Et souvent, ce qui fait le problème dans une relation, mais qui est au-delà de la relation de producteur-artiste, dans toutes les relations professionnelles, voire même amicales, c'est qu'il y a une mauvaise valorisation du rôle de chacun. Tu sous-évalues ce que fait l'autre et tu surévalues ce que toi, tu fais.
Ouais.
Et c'est toujours ça qui pose problème. Que si le mec t'arrive à... Parce que un mec comme PLK, typiquement, demain, s'il veut signer en distrib, il fait un braquage. Il fait un braquage, il repart avec plusieurs millions d'euros d'avance. Et il repart avec un taux à 85%. Enfin, il fait un braquage total. Et qu'est-ce qui fait qu'il ne l'a pas encore fait ? Alors peut-être que c'est parce que son contrat dure sur trop longtemps et qu'il n'a pas encore pu renégocier, ou peut-être que tout simplement il se dit « je sacrifie une part de mon pourcentage parce qu'en face, on m'apporte quelque chose ». Et je vais rebondir sur un autre exemple, je vais prendre l'exemple de Medine, qui est produit depuis des années par Alassane Konaté, qui a le label Dean Record, tu vois. Typiquement, c'est un exemple de relation où les mecs qui bossent ensemble depuis peut-être 2003, ça fait 20 ans, ils vont faire les 20 ans de carrière, ça fait 20 ans qu'ils bossent ensemble. Et moi, pour le coup, j'ai commencé en tant que stagiaire chez Dean Record, donc j'ai vu l'évolution de la relation. Et typiquement, une des questions qui s'est posée, c'est à un moment, ça très rapidement, il y a son artiste, on va se faire une coproduction. Même si dans les faits, Medine n'a pas forcément d'équipe, donc c'est le label de Salsa qui fait vraiment le travail opérationnel, mais il dit voilà, t'as un apport, t'es mon artiste phare, tu génères de l'argent. Pour te garder, il faut que je fasse des sacrifices qui sont aussi de proposer une coproduction où tu as une part de coproducteur, alors tu ne fais pas exactement le taf de coproducteur, mais tu es un artiste fort, tu apportes des choses, donc je suis prêt à faire un sacrifice. Est-ce que c'est un sacrifice quand tu regardes avec le recul maintenant, ça fait, ils ont fait plein d'albums ensemble, et ils ont une proximité, et lui, il sait qu'il aura toujours cette moitié de Medine. Parce qu'à un moment, il a sacrifié peut-être une moitié.
Justement, juste pour préciser pour les gens, quand tu dis coproducteur, ça veut dire que Medine possède la moitié de sa musique.
Exactement.
Voilà, c'est important de le préciser.
Medine possède la moitié de sa musique, et en plus de sa part artiste, et du coup, touche la moitié du bénéfice du producteur. Donc en gros, il a sa part d'artiste et il coupe en deux la part du producteur. Et il y a des producteurs qui auraient pu dire « Non, c'est mort, tu ne fais pas encore disque d'or, tu ne mérites pas. » Mais à un moment, bonne intelligence.
C'est ça.
Tu partages un truc, ton artiste comprend que tu as fait un sacrifice, tu lui expliques. Tu fais des contrats malgré accord moro, hop, à un moment tu fais des contrats, tu lui montres le truc, etc. Là, le mec se dit, ok, il m'a mis bien, pourquoi j'irai voir ailleurs ?
C'est pour ça ce que je disais tout à l'heure quand je parlais de s'associer directement à ce fameux producteur qui vient vers toi. Si tu as la capacité, toi, d'être ton propre producteur et d'être avec ton associé, c'est...
Mais il faut de la bonne intelligence, hein, parce que tous les exemples qu'il a cités, quand il parle d'Antoine, de PLK ou de Salsa et de Medine, en fait, il l'a dit, et je le répète, c'est vrai, c'est qu'il faut des gens intelligents, en fait. Parce que tu peux expliquer la même chose, avec les mêmes mots, à une personne différente, à un artiste différent ou à un producteur différent, certains ne voudront pas l'entendre. Donc, c'est-à-dire qu'il faut que les deux aussi soient sur la même longueur d'onde et comprennent l'intérêt de travailler ensemble et de trouver une solution qui arrange tout le monde. Parce que dans la plupart des cas, il y en a beaucoup qui veulent se tirer la couverture à eux,
bien sûr.
Malheureusement, soit par égocentrisme, soit par manque de flexibilité, comme disait le chroniqueur tout à l'heure, parce que le producteur, même si tu lui dis 3% de plus, il ne veut pas, parce que c'est comme si on l'avait volé, ou je ne sais pas comment il raisonne aussi, se sont floués, lésés. Et ça marche, malheureusement en tout cas, dans une minorité de cas. Après, je n'ai pas forcément de stats, mais...
Après, moi, je pense que si au bout d'un moment, cette intelligence-là n'arrive pas, c'est qu'un des deux parties était malveillant, tu vois. Et
bien sûr,
coup,
mais la malveillance, c'est
vrai,
la base.
On arrête là, c'est mieux.
Tu vois.
Si cette intelligence-là, elle n'arrive pas dans la relation à un moment donné, alors qu'elle est censée arriver et que c'est évident et c'est logique, c'est qu'en vrai, la relation, elle devait terminer.
Ou ignorant. Parce que ça, je suis d'accord avec toi, mais des fois, Juste, les gens ne savent pas comment lâcher du lest. Mais je suis d'accord avec toi. Quand les gens comprennent et qu'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord, c'est, en fait, c'était foutu d'avance. C'est juste que ça a été un accélérateur d'un problème qui était plus profond. Mais pour arriver à ces solutions-là, par exemple, dire « vas-y, on va partager », etc., il faut connaître les possibilités.
Mais
c'est pas toujours le cas.
Quand bien même tu connais...
Après, c'est à toi d'aller chercher, encore une fois.
Là, je me fais un peu l'avocat du diable, vous me direz, je ne sais pas. Quand même, tu connais. Je sais pas, tu vois que ton projet a généré, je sais pas, 1 million d'euros ou 2 millions d'euros et que tu es produit par des producteurs et tu es en artiste chez eux, peu importe, et eux, ils sont en licence ailleurs. Bref, on imagine que c'est ces configurations-là. Quand tu vois le pourcentage que tu touches par rapport à ce qu'a généré le projet, comment tu veux qu'un artiste dans sa tête ne se dise pas
«
j'élimine mon producteur, je prends mes 80% ou mes 85% selon le statut que j'ai, je vais arracher ça en distrib à gauche ou à droite, basta, je prends mon million d'euros d'avance ou voire plus. » Comment tu sais humainement, acceptable intellectuellement, que le gars s'assoit sur des pourcentages? Parce que là, on dit « oui, t'as vu comprendre l'apport valorisé. » Je te kiffe, mon ref, mais t'as vu, je pense à ma...
Ouais,
c'est tout, c'est comme ça qu'il faut, à un moment donné, c'est trop dur, en fait.
Il y en a aussi qui sont conscients de ce que la collaboration leur a apporté. C'est-à-dire que si demain, il le perd, parce que c'est bien beau de lâcher ça, de partir en distrib, mais dans ce cas-là, il faut que tu sois ton propre producteur.
Ah, mais chroniqueur, moi, je suis d'accord avec toi, mais t'as vu, en fait, la théorie, la lucidité, la perspicacité, le pragmatisme, le réalisme qu'on a, nous, VS... Le pourcentage, l'argent qu'on te propose, le poteau, parce que c'est le démon, n'oublie pas le poteau. Tes soufflages qui vont commencer à penser, mon ref, franchement, je te dis la vérité, je te rends compte, nanana. Et on trouve un prétexte, on trouve ci, on trouve ça. Mmh. C'est compliqué à gérer mentalement pour des artistes qui sont bien en vue et qui, à un moment donné, ils ont eu les gens qu'ils ont accompagnés. Bien sûr, on
parle de loyauté. Mais c'est parce que les producteurs, ils sont pas solides.
C'est le piège et c'est la raison pour laquelle il y a plein d'artistes qui ont arrêté et qu'on n'entend plus parler.
Je suis d'accord avec toi.
C'est une question que les producteurs ne sont pas aussi assez solides sur leurs appuis. C'est-à-dire que typiquement, tu dis « ouais, je veux la part de l'autre ». Mais si l'autre, il te montre sa part, il t'explique ce qu'il dépense, il t'explique ce qu'il apporte, tu dis « je veux pas la part de l'autre ». Mais le problème des producteurs aussi, c'est que quand ils ont de l'argent, ils ont l'impression de l'avoir volé. Et ça, c'est une réalité.
Ils sont gênés
de leur argent.
Dans la communication.
C'est-à-dire que typiquement, demain, tu signes en distrib, tu prends, imaginons, tu prends 1 million d'euros en distrib, le producteur, en vrai, la logique, c'est qu'il va plutôt donner... En vrai, l'équivalent, c'est 200 000 euros pour son artiste. Donc lui, il garde 800 000. Mais en général, les producteurs sont aussi gênés de ça en se disant « c'est un peu le syndrome de l'imposteur. Putain, en vrai, je l'ai braqué. J'ai 5 fois plus, tu vois. » Mais déjà, quand tu calcules, toi, dans tes 800 000 euros, tu vas faire que des dépenses. Mm-hmm. T'as une équipe, vous êtes 4, vous êtes 5. Enfin, tu vois, et à un moment…
Selon qu'il y a deux producteurs ou un producteur aussi, on va se partager le truc à deux, ça fait
400, producteurs, ils sont pas aussi… Des fois, ils sont flous parce qu'ils veulent cacher des choses. Et en fait, quand tu caches des choses, même quand t'es honnête, tu passes pour un voleur. Et j'ai plein de fois le cas hein, où des mecs sont en mode ils font les bonnes choses aux artistes. Ils leur envoient leur argent. Et quand l'autre mec, il dit « ouais, mais du coup, c'est comment ça ?» Pose pas de questions. Mais t'as respecté un contrat, t'as payé des choses, justement, qu'il pose des questions, explique-lui.
Mais ils auraient tout à gagner à montrer, en plus. Comme ça, voilà. Le mec, il voit où l'oseille va, en plus.
Exactement. Voilà. Montre. En fait, c'est ça qui manque des fois. C'est le côté caches, et quand tu caches, tu fais croire que tu voles. Alors qu'en fait, tu voles pas.
Mais on parle pas d'un cas aussi où, je sais pas si on en a parlé, vous me dites, où le producteur cache volontairement parce qu'il sait très bien ce qu'il fait et quand l'artiste essaye de gratter, il se rend compte que ça fait des audits, ça fait des trucs, il se rend compte que y a des trous, il y a des ci, il y a des ça. C'est ça aussi, c'est qu'il y a des faux aussi, il faut pas...
Mais on part du principe que le mec est carré.
Parfois, parce qu'on peut avoir l'impression qu'on dit que c'est juste de la compréhension, c'est juste de la communication, mais aussi il y a beaucoup de producteurs qui font des choses qui ne sont pas forcément très recommandées, les artistes s'en rendent compte, et voilà, ça pète. Donc parce que aussi les artistes ne sont pas...
Peut-être qu'ils avaient un manque de connaissances.
Des divas fous. Non, ouais, mais... En fait, je comprends ce que tu dis. Et t'as raison, en vrai. Il y a beaucoup de manque de connaissances.
Ok, il y a des voleurs, mais il y a beaucoup de mauvaises foi.
Il y a aussi des voleurs aussi.
Oui, après, peut-être que la partie dont on ne parle pas, c'est les voleurs ou les.
Il y en a certains, les
gros bras aussi.
Ça fait partie du jeu.
Est-ce que les gros bras, voilà, est-ce qu'à un moment donné, il n'y en a pas beaucoup dans le rap?
Mais ils perdent leurs artistes au bout d'un moment.
Ouais, c'est ça.
Parce que t'as des plus gros bras qui arrivent et t'as des avocats qui rentrent à un moment. En fait, quand t'es gros. À un moment, quand tu génères de l'argent, si le mec il t'a arnaqué, tu vas avoir un mec un peu costaud qui va dire « Ok, moi je vais devenir ton manager ou je vais devenir ton coproducteur. » Donc en gros, il dit « Je vais prendre que la moitié au lieu de te prendre 100% » et on va ramener un avocat qui va péter le contrat et si l'autre il n'est pas d'accord, on va lui taper dessus. » En fait, c'est simple. Les voleurs, ils durent pas longtemps avec les artistes. Ils les perdent. Et c'est pour ça que tu vois les mecs, en gros, des fois, qui sont là qu'au début. Et à chaque fois, l'artiste s'y pète et il est plus avec là. Donc en fait, à un moment, le mec…
C'est juste les mecs, ils ont juste fait un coup, quoi. Ils ont juste voulu faire un coup. Parce que, comme on disait, il y en a plein un album et au début qui considéraient un peu le rap comme un rinté aussi, tu vois. Je suis là, je prends mon gros coup.
Est-ce que les producteurs, est-ce que certains producteurs, parce que c'est un élément dont on n'a pas parlé, mais la raison c'est, est-ce que certains producteurs sont attachés à cette musique-là, à cette culture, ou c'est un business comme un autre, ils investissent et basta.
En fait, c'est là où je voulais vous emmener sur la partie production dans le rap, c'est qu'il y a à la fois des gens qui sont effectivement qui sont passionnés. Je pense que c'est le cas du manager de PLK, mais il y a aussi des cas de figure. Voilà, c'est ça, mais il y a aussi le cas de figure où tu as des gens, voilà, on est dans un quartier, on connaît un petit peu le milieu, tu vois. Il va y avoir un producteur, le producteur c'est un autre gars du quartier, il te dit « Ah, je crois en vous, je mets de l'argent », mais il ne connaît pas le métier, il n'a pas l'intention de se former, mais l'artiste se retrouve entre guillemets pris entre des griffes. Tu vois. Est-ce qu'à un moment donné, ce n'est pas le cas de figure qui revient beaucoup, et est-ce que c'est aussi pas pourquoi il y a cette réputation négative de la part des producteurs? Parce que si encore ce serait uniquement, tu vois, des cas de figure où il y a des problèmes de contrat un petit peu ici et là, mais c'est quelque chose qui revient souvent, nous on est au courant.
Mais d'un côté, là où je te donne raison, c'est vrai, mais c'est un effet de bord, parce que de l'autre côté, que ce soit peut-être, tu me diras si je me trompe, aux États-Unis, même s'ils sont beaucoup plus professionnalisés que nous, ou ici, si tu n'avais pas des producteurs indés qui font certaines choses dehors, qui misent leur argent, peut-être qu'il y a plein d'artistes que tu n'aurais pas.
Non, c'est même pire aux US.
En fait, finalement, est-ce que ce n'est pas le revers de la médaille, cette espèce d'amateurisme?
Je prends le bon et le mauvais.
Voilà,
la musique, c'est tellement dur de produire que un mec.
C'est un sport de riche. Hein.
Voilà, c'est ça. Un mec qui est dans un truc de. Un mec qui est rationnel, il n'investit pas dans la production. Un rationnel, il n'investit pas dans la production.
Ah ouais.
Le mec qui va sur la production, c'est un mec qui a trop de bif.
Il a du
veut changer de dimension. Ouais. Parce que peut-être qu'il va dans un truc un peu plus légal et il se dit, vas-y, ça chie tranquille.
Il y a un moment où il y a eu plein de rappeurs qui sont arrivés, qui ont fait des gros buzz et qui ont pris plein d'avances. Du coup, il y a eu un phénomène où tout le monde voulait devenir, tout le monde voulait produire un artiste. Et c'est là où ça a été piège. Et maintenant, ils se sont tous rendus compte que c'était pas bénef.
Il y a un côté braquage, c'est ça que tu dis en maison 10?
Non, en fait, il y a eu un moment donné où il y a eu plein de rappeurs, enfin, d'un coup, où il y a eu un moment donné, même le côté où il y a eu la trappe, tout le monde voulait rapper, tout le monde voulait produire des artistes, je veux produire mon petit rappeur. Et il en rapportait des thunes. Non, mais c'est vrai. Et en fait, t'en as plein après qui se sont rendus compte que ça fonctionnait pas et que du coup, bah, ils se sont dit non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Tu vois.
Mais les avances en question de maison 10, il n'y a pas eu cette idée d'aller faire un braquage en
Bien sûr. À ce moment-là, ils se sont dit putain, le rap en ce moment, ça cartonne. Tout le monde, on a la sensation que tout le monde prend de l'oseille et que tout le monde vit très bien avec. Nous aussi, on veut pouvoir en vivre et on va aller produire un petit mec de notre cité. On a de l'argent, ils vont nous rapporter des thunes. Sauf que t'en as un sur 10, bah oui,
et c'est
moins risqué.
Parce que c'est ça aussi les plans. Enfin, c'est
jouer moins, au PMU, c'est plus facile. Hein.
C'est moins aussi. C'est moins risqué. C'est moins risqué que peut-être les activités que les gens avaient dehors, ou même s'ils travaillaient. Oui. C'était peut-être plus rémunérateur le fait dans leur tête de faire de la musique, mais il y a ça aussi, c'est les nouveaux plans, on va pas se mentir. C'est soit les trucs du dehors, soit tu vas prendre un petit rappeur, soit tu vas prendre un footeux. C'est ça aussi les plans qui
font que... Mais après, pourquoi pas, par contre, tu vois, pourquoi pas, si ça te permet de sortir d'autres choses, mais par contre, il faut t'investir vraiment et t'impliquer, t'y intéresser.
Et être prêt à perdre.
Voilà, être prêt à perdre.
Parce que ça aussi, on leur dit pas.
Et considérer, justement, les mauvais et les bons au moment avec ton artiste et tout ce qui va impliquer, toutes les conséquences, en fait.
Et si t'es pas passionné de musique, c'est très compliqué.
Mais c'est pour ça.
Si tu vas que pour le bif, c'est mort.
Voilà, c'est ça, la limite du truc. C'est qu'il y a un moment où, quoi qu'il arrive, tu vas sortir du truc. Si t'es pas passionné là-dedans, c'est en vrai, c'est un bourbier. Donc tu tentes un coup et puis au final il se passe rien, bah voilà quoi.
À part si les chroniqueurs vous faites une bonne assoce. Par exemple Céline et toi vous associez, elle ramène l'argent et toi tu ramènes la passion, le kiff de la musique, nanana, elle il connaît rien à la musique.
Non après il y a une sélection naturelle qui va se faire.
C'est la bonne intelligence en fait, entre celui qui deux coproducteurs, celui qui finance, qui ramène la trésorerie et l'autre qui ramène les compétences.
Mais il faut qu'il y en ait un des deux qui soit passionné.
Exactement.
Ah oui, c'est sinon ça marche pas. Sinon c'est cuit. Ah non, si t'es que des mecs qui veulent juste
faire l'oseille, c'est pas possible.
Je suis pas sûr. Hein.
Ouais, mais du coup, ça m'emmène à la dernière question. Est-ce que la logique pour un artiste dans son parcours, plus il est en ascension, plus c'est à un moment donné finalement de se séparer de son producteur initial et de devenir producteur? Est-ce que c'est ça finalement? Parce que c'est vers là qu'on va à chaque fois, quand on prend l'exemple de Damso, là on parle de Tia Cola, Maître Gims, etc.
On parle de production par exemple, être associé au
producteur.
Soit être associé au producteur que tu avais initialement, soit être effectivement ton propre producteur.
Et à ce moment-là, le coproducteur, enfin le producteur qui devient coproducteur, qu'est-ce qu'il devient lui? Qu'est-ce qu'il fait exactement?
Mais après, c'est à eux de...
C'est ça que...
C'est à eux justement de voir quels sont le rôle de chacun, mais en réalité, c'est juste qu'il va gagner plus d'argent, en fait.
En général, ça bouge pas. Hein.
Ça bouge pas, c'est juste qu'il va sentir, lui, plus valorisé, et du coup, il continuera la collaboration. il sentira.
Si typiquement, t'es en fin de contrat avec le mec, avant t'étais 100% producteur, tu vas faire le même taf, voilà, le même investissement, pareil, en fait.
C'est ça.
Et juste tu vas toucher deux fois moins. Ouais. Parce que ton artiste, il faut qu'il touche plus, mm-hmm. et que toi, ce deux fois moins, si financièrement il est encore rentable, tu le fais.
Ouais, okay. Au final. En fait, parce qu'après, c'est toi, en tant que producteur, tu vas se dire, est-ce que par ego, parce que voilà, j'ai envie de me barrer, parce qu'au final, maintenant, il veut être aussi producteur avec moi, et non, j'ai pas envie, parce que c'est moi ça. Le producteur de base, c'est moi le chef.
Bah, c'est
moi le chef à la base. Maintenant, c'est plus moi qui sera le chef. Et lui aussi va prendre ses décisions et il aura son mot à dire autant que le mien.
Ouais.
Est-ce que j'accepte ça et je prends sur moi? Ou est-ce que j'abandonne le bateau? Mais à quel prix? Parce que peut-être qu'on aurait pu continuer une aventure extraordinaire ensemble. C'est...
Mais il n'y a pas beaucoup de gens qui sont prêts à bosser en bonne intelligence, en vrai. Parce que là, ça a l'air logique. Mais dans les faits, bosser en bonne intelligence avec les gens, mais
c'est
très
rare.
C'est
pour ça que c'est important, ce serait intéressant que ce soit la discussion depuis le départ. Enfin, moi, quand tu me parlais de mes expériences personnelles, par exemple, DA est son propre producteur depuis le départ.
Ça simplifie les choses. Ça évite d'avoir le moment
depuis le départ, DA est son propre producteur avec ses associés.
Mais c'est pas toujours faisable non plus.
Voilà, parce que la raison était cette raison-là, c'est que si demain tu deviens, tu perces, tu as un succès et que tu deviens quelqu'un, on n'a pas envie que tu te barres. On veut t'accompagner jusqu'au bout. Donc tu seras producteur avec nous depuis le départ.
C'est de la bonne intelligence dès le début, mais c'est pas toujours faisable.
Voilà.
Et c'est des refs aussi. C'est des frérots aussi.
Ouais, en plus c'est des amis. Mais justement. Bah parce que justement, ils n'ont pas envie aussi de détruire leur amitié, ils n'ont pas envie de détruire tout ce qui est leur histoire en fait. Ils se sont dit non, depuis le début, avant même qu'on sorte Mexico ou quoi, quand on fait nos contrats, tu es aussi producteur avec nous, t'es notre associé. Tu n'es pas notre artiste, tu es notre associé. Donc, et ça, c'est ce qui fait que jusqu'à aujourd'hui, ça perdure. Je pense que c'est grâce à ça.
Et pour revenir sur ce que disait l'instant Céline, très rapidement, typiquement, le mec était producteur à 100%. Avant, imaginons, sa part de bénéfice, c'était 1 million d'euros, tu vois. Et bah, s'il devient coproducteur, il fait le même taf et il passe de 1 million à 500 000. Donc certains vont se dire, je perds 500 000, puisque je passe de 1 à 500 000, enfin, 1 million à 500 000. Ou d'autres vont se dire, en le gardant, je passe de 0, puisque j'aurais eu 0 sinon, à 500 000. C'est juste ça. C'est où tu mets le curseur. Est-ce que tu te dis, je gagne ou est-ce que tu dis, je perds? Et si effectivement, tu es dans ta posture de dire, attends, à l'avant, je gagnais 1 million, je lui donne un demi-million alors que je fais le même taf, parce qu'en général, tu continues à faire le même taf. Et bah, tu peux effectivement te dire non, c'est pas moi de le faire, j'étais là, et surtout il y a beaucoup ce truc de j'étais là au début quand il valait rien, j'ai payé ci, j'ai payé ça, j'ai payé un kebab à l'époque, c'était beaucoup pour lui, enfin c'est des trucs aussi con que ça. Hein.
Non, mais ouais.
La fois où j'ai dépanné sa daronne, j'ai filé une Rolex, tous ces trucs-là, rentre en compte, alors que si le mec est purement objectif, là j'ai 500 000 euros à prendre, parce que si je sors de la boucle, je les perds. Si tu réfléchis intelligemment et que tu le comprends.
Donc c'est censé être aussi sur le projet d'après, avec un peu de chance, il va générer encore plus qu'un million. Et du coup, il va peut-être même s'en rapprocher quand même, tu vois.
Tu vois, donc c'est juste à un moment avoir ce raisonnement-là. Et pour revenir quand même juste sur le discipline, parce que des fois, les gens peuvent prendre aussi pour argent comptant ce qu'on dit. Cette logique de dire « je m'associe dès le début », elle n'est pas toujours justifiée. Donc typiquement, je pense quand V2Vrai s'associe avec Dauzy, entre guillemets, eux, ils ont fait un sacrifice dès le début, tu vois. Et je pense que c'est dû aussi à leur amitié.
À l'amitié, effectivement.
Et tout ce qui va avec. Ouais. Et ça ne veut pas dire que si vous êtes un artiste indépendant et que vous avez un producteur indépendant qui vous propose de vous produire, ça ne veut pas forcément dire que vous devez lui demander d'être
d'emblée
associé.
D'emblée, d'être associé.
Exactement. Ouais. D'autant plus que de toute façon, c'est chiant. Hein, parce qu'une fois que tu es associé, le jour où vous n'êtes plus d'accord, c'est la merde de ouf, tu vois. Donc des fois, tu es mieux être dans un logique plutôt de dire écoute, au lieu de m'engager sur 3 albums, je m'engage sur 2 albums et on met une option sur une coproduction sur celui d'après. Que dire dès maintenant je m'associe, surtout qu'au début il n'y a pas d'argent, donc en vrai t'associes pourquoi, tu vois. Ouais. Mais c'est vrai que l'association c'est aussi une autre source d'embrouille, parce que moi ce que je conseille souvent, bon là c'est des trucs un peu plus techniques, c'est créer votre boîte et faites des coproductions entre vos boîtes. Parce que quand tu t'associes avec quelqu'un, typiquement, imaginons Dauzy s'associe avec ses producteurs, tu vois, et que demain les mecs ils commencent à développer plein d'artistes sur cette boîte-là, et que Dauzy a 25%, bah, typiquement, il aura 25% de tout le monde, alors qu'en fait, il ne fait pas du tout le travail de coproducteur. Et donc ça peut marcher un temps, et puis ça peut arriver un moment où les autres disent, bah, en fait, tu ne fais pas le travail de coproducteur, tu es associé, c'est un peu chiant. Alors que si tu crées une boîte juste pour ton projet à toi, il y a ce truc, c'est plus simple. Parce qu'au moins, vous êtes associé sur le projet de la vision en question.
Bah écoutez, sur ces belles paroles, je pense qu'on va, on va remballer, hein, c'était super. Je pense qu'on a creusé pas mal le sujet.
T'es en cas pratique.
Ouais, c'est un cas. Ouais, mais sur la fin, c'est super intéressant.
On n'a pas parlé de ceux qui ont finalement jamais eu besoin d'un petit producteur indépendant comme ça aussi. Hein.
De quoi ?
Ouais.
Oui, des artistes qui, au final, qui ont été dès le départ, qui ont créé quelque chose, qui ont été, entre guillemets, leurs propres producteurs dès le départ. Et quand je dis leurs propres producteurs, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils se sont enregistrés dans leur chambre et ils ont fait un clip avec leur iPhone. Et finalement, qui ont été négociés, et ça a pris, sans avoir eu à
Il y en a de plus en plus.
Et il y en a de plus en plus.
C'est abusé. À la base, il y en a peu, parce que ça coûtait plus cher aussi.
Bah oui. Là, ce que dit, ce que je veux dire par là, c'est que ça devient tellement peu cher de produire de la musique. Qu'au final, tu as énormément aujourd'hui d'artistes qui pètent, qui n'ont jamais eu à signer un contrat avec, ouais. avec un producteur indépendant. C'est directement, ils sont partis gosser une avance pour une distrib ou quoi, okay,
et d'autant plus à l'heure où les clips sont moins importants. En fait, la grosse source de dépenses, c'est les clips. Et là, il y a beaucoup, moi, la part des artistes que je rencontre, qu'on accompagne dans leur business, ils ont directement des propositions d'avance à plusieurs dizaines de milliers d'euros, et les mecs n'ont jamais fait un seul clip de leur vie. Mmh. Donc finalement, si tu remets tout ce qu'ils ont dépensé depuis le début, si en 3 EP ils ont dépensé 10 000 euros, c'est le bout du monde. Hein.
Bah, ouais. Grave.
Donc c'est aussi que c'est en train. Cette discussion-là, c'est la conséquence. En fait, on est en train de parler de ça parce qu'on prend le modèle, entre guillemets, de base, qui était qu'en général, tu avais un grand qui mettait du bif. Maintenant, ça évolue beaucoup. Différent. Et il y a beaucoup plus de managers que de producteurs. C'est-à-dire que moi, la part des gens que je rencontre ont des managers, mais qui sont des vrais managers, en mode moi, je manage le gars, je l'aide, mais ils sont propres producteurs. Donc tous les modèles sont un peu en train de changer. Cette discussion-là, entre guillemets, elle est un peu datée. Elle est dans le cœur de l'actualité parce que c'est les conséquences des contrats d'avant. Mais là, franchement, la plupart des jeunes artistes qui arrivent ont pas du tout la même logique, tu vois. Ou alors s'associent après avoir eu un buzz. Là, c'est le cas aussi, certains qui commencent à avoir du buzz et décident de s'associer avec un indé parce qu'ils veulent pas être avec une majeure, parce qu'ils veulent de la flexibilité et comprennent aussi qu'être autoproducteur, c'est une galère. Et donc, du coup, ils se disent, OK, je vais m'associer avec un indé qui me comprend, qui a de la flexibilité et qui a un vrai enjeu sur moi, et on va aller chercher une distribution ensemble.
Oh, mais je pense que c'était assez riche en informations. Bah, dans les commentaires, n'hésitez pas à nous donner votre avis un petit peu sur tout ça. Tu sais, je n'ai pas une question en particulier à leur poser, tu vois, parce qu'on a parlé des voleurs techniques. Mais par contre, n'hésitez pas à poser vos questions. Ça se trouve, ça va nous inspirer pour un autre sujet ou quoi. Et n'oubliez pas, hein, Deal Eterm est disponible un jour avant sur les plateformes de streaming au format podcast. Donc, vous pouvez nous écouter là-bas. Et pour ce qui est du reste, eh ben, on vous dit à très vite. C'était Chris d'Iconic pour Bouscapé. C'était Deal Eterm. Cheers.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.